Mémoire d'un continent.
Ilikem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
La crise anglophone au Cameroun, comment en sortir ? Comment en sortir ? C'est la question que se posent tous les Camerounais. Aujourd'hui, je pense, à peu près unanime à reconnaître depuis les violences qui ont endeuillé le pays à la fin de l'année 2017, qu'il y a urgence, d'une part, à ouvrir les yeux sur la réalité de cette crise, c'est-à-dire deux personnalités politiques, juridiques, peut-être intellectuelles différentes en raison de l'histoire, et aussi qu'en même temps, le besoin d'être ensemble et de continuer à vivre ensemble pour éviter les drames que l'on connaît ailleurs, des séparatismes, des autonomismes et quelquefois des guerres civiles. Cette question qui passionne tout le monde et qui divise aussi les spécialistes, puisque d'aucuns, notamment dans les sciences sociales, dans les lettres, disent que le Cameroun est un, il est uni, il n'y a pas de problème. Au contraire, notre invité d'aujourd'hui, Pierre Camé Bobda, qui est enseignant, chercheur, maître de conférences à l'université de Vincennes. Il a une formation multiple, un peu comme les philosophes du XVIIIe siècle. Il est économiste, historien, philosophe et aussi, spécialiste de prospective, puisqu'il propose un certain nombre de pistes qui pourraient aider à la solution. Bonjour à vous, chers collègues.
Bonjour, monsieur Bokolo.
Vous venez donc de publier ce livre qui a été écrit en un temps record, parce que lorsque la crise éclate, vous décidez le 23 septembre, donc au lendemain de la crise, peut-être même après une nuit blanche, hein, vous décidez que il faut envoyer un texte à vos amis pour dire il y a péril en la demeure.
Oui.
Le livre est là. Nous avons dans une précédente émission montré comment ce pays qui a été colonie allemande, qui a été géré d'une certaine manière par le Reich allemand, a été pas saucissonné vraiment, mais découpé en deux, oui, comme on découpe un gâteau, entre la France qui était présente en Afrique équatoriale française, oui, donc voisine du Cameroun, et l'Angleterre qui était bien installée au Nigeria, où d'ailleurs elle avait prétendu, avec ses théoriciens, élaborer un modèle de gouvernement, le fameux dual mandate, double mandat, avec d'une part une administration directe, oui, dans le sud du Nigeria, oui, et d'autre part une administration indirecte. Ça a tenu plus ou moins, hein, puisque le Nigeria a eu aussi des problèmes à l'indépendance.
Énormément.
Alors, pour vous, vous avez montré qu'il y a deux personnalités. Comment on pourrait les définir ? Est-ce qu'on peut dire que la vision politique est plus claire d'un côté que de l'autre, en termes de relations avec la métropole, ou en termes d'organisation de l'espace ?
Non, je pense qu'il y a deux personnalités politiques. Il y a des mœurs sociopolitiques qui sont plutôt d'inspiration, je dirais, de tradition française et jacobine d'un côté. Il y a une personnalité publique et des mœurs sociopolitiques qui sont plus britanniques, plus décentralisées de l'autre côté. Et je pense que à la suite de la réunification, l'organisation fédérale avait été faite justement pour respecter ces deux personnalités-là. Mais simplement, aussitôt après la réunification du Cameroun et donc l'expression de cette réunification dans le cadre d'une république fédérale à deux États fédérés, il reste que les dirigeants du Cameroun francophone ont considéré, notamment à partir de la crise biafraise, que ce qui était leur volonté dès le départ, qui était la promotion d'un État unitaire, parce qu'ils considéraient que leur principal projet politique, c'était la construction nationale, et de leur point de vue, construire la nation ne pouvait pas se faire avec des institutions de compromis. C'était ça l'idée générale chez les francophones. Et quand est survenue la guerre du Biafra, ils ont considéré qu'il fallait accélérer ce projet. Et il fallait d'autant plus l'accélérer qu'ils étaient parvenus déjà à faire le parti unique et ils considéraient que c'était sans objet une fédération dans le cadre d'une organisation politique où il n'y aurait qu'un seul parti.
Alors vous expliquez aussi que la constitution qui instituait le fédéralisme, c'était assez bancal cette constitution, parce que dans un vrai fédéralisme, il y a une chambre qui représente tout le monde et il y a une chambre qui représente les États ou les régions fédérées. Or, ça n'était pas le cas.
Ça n'était pas le cas. Il n'y avait pas de Sénat et beaucoup d'enseignants camerounais ont écrit sur le fédéralisme camerounais en indiquant que dès le départ, c'était un projet assez osé et on pouvait prédire la fin, en tous les cas, dans sa forme initiale de ce fédéralisme. Beaucoup d'auteurs camerounais ont écrit et ont projeté la fin de ce fédéralisme-là. Toujours est-il que la réalisation du parti unique a rendu aux yeux des francophones sans objet la fédération. Parce que tout ce beau monde se retrouvait dans les mêmes instances exécutives et je crois que les dirigeants anglophones ont peut-être commis l'erreur de s'inscrire par opportunisme dans le projet de parti unique. En négociant le parti leader, John Gufonsha, qui était le dirigeant, le vice-président du Cameroun fédéral, s'est inscrit dans cette démarche un peu par opportunisme, mais il reste que la plupart des dirigeants, je dirais la totalité des dirigeants anglophones, étaient favorables au parti unique. Je dirais par opportunisme. Mais c'était un projet qui était opportuniste et en même temps suicidaire. Parce que je crois que c'est la réalisation du parti unique qui a facilité en quelque sorte la mise en œuvre du projet de l'État unitaire qui était la préférence des anglophones dès le départ. Donc, c'est ce qui s'est fait en 1972, c'est-à-dire qu'en fait, le président Ahmadou Ahidjo a supprimé par voie référendaire la fédération en 1972 et est apparue donc la République unie du Cameroun. Et je crois que c'est le début d'une désinstitutionnalisation progressive de la personnalité ou de la personnalité anglophone. C'est-à-dire que progressivement, ils ont perdu des prérogatives qui leur étaient reconnues constitutionnellement dans l'État fédéral. Et je crois que il y a aussi eu une sorte de subordination sociale et politique. Et je crois que c'est au cœur de leurs revendications actuelles. Ils veulent le rétablissement, en quelque sorte, du fédéralisme parce qu'ils pensent qu'ils peuvent retrouver des prérogatives qui sont liées à leurs mœurs sociopolitiques et ça n'est pas étranger, en tous les cas, à la crise d'aujourd'hui.
Mais alors, comment on a géré la question des langues, puisque d'un côté c'est l'anglais, de l'autre c'est le français, le système éducatif aussi n'est pas le même. Comment on fait pour que tout cela marche du même pas et soit équilibré, ça paraît...
Ça n'est pas du tout équilibré. C'est vrai que la langue, lorsqu'on a réalisé la réunification, on a adopté deux langues officielles, mais il est un fait que c'est très déséquilibré. Et l'un des reproches fait à l'État aujourd'hui est que le bilinguisme est théorique et que les anglophones considèrent que eux ils sont bilingues et pas les francophones. Les anglophones considèrent que beaucoup de textes de l'État sont en français et pas en anglais. Bref, ils considèrent que la mise en œuvre du bilinguisme a été en quelque sorte un échec. D'ailleurs, je crois que les causes immédiates tiennent en tous les cas si on voit les revendications qui sont faites, notamment par les avocats. L'une des revendications, c'était simplement de faire en sorte que certains textes organiques, certains textes juridiques de référence soient rédigés en anglais, que certains responsables de juridiction puissent, quand ils sont affectés en zone anglophone, rendre justice en anglais, que les procédures d'instruction soient les procédures qu'ils connaissent, donc qui relèvent de la common law, que les procédures de jugement, qu'ils en soient autant. Bref, c'est donc, en quelque sorte, le bilinguisme qui n'a pas réellement fonctionné. L'organisation du bilinguisme, et vous disiez, parlant du système scolaire, c'est vrai que c'est un échec, c'est-à-dire que c'est une juxtaposition de deux systèmes, et souvent le reproche est fait par les uns ou les autres des insuffisances de l'autre système, de la difficulté à établir des correspondances entre les deux systèmes. Donc, ça a été une expérience qui s'est soldée, on peut le dire, par un échec.
Et du point de vue, comment dire, des chiffres, est-ce qu'on peut quantifier tout cela, combien de populations d'un côté et de l'autre? Du point de vue des ressources, bon, nos pays sont tous un peu dans la même situation, producteurs surtout de matières premières, qui pèsent combien dans tout cela? Et d'un autre côté, il est clair aussi que, étant ici en France et dans les pays francophones, on connaît plus les auteurs francophones, on connaît plus, c'est peut-être un peu plus difficile, la musique jouée par les francophones que du côté anglophone. Donc il y a une sorte d'injustice finalement quand on regarde le Cameroun de l'extérieur pour les francophones, de voir surtout la partie qui ressemble le plus aux francophones.
Tout à fait, tout à fait. Que vous dire, c'est une réalité. C'est très inégal et bien que francophone, je dois reconnaître que la place qui leur est laissée dans beaucoup de domaines est relativement marginale. Donc, par moment, je me dis, si j'étais anglophone, je serais enclin à être fédéraliste. Parce que, quand je regarde l'organisation de l'État, l'organisation institutionnelle, quand je regarde la vie économique, la vie sociale, je dois reconnaître qu'au Cameroun, il y a des raisons, quand on est anglophone, de considérer qu'on est ostracisé et qu'on est marginalisé. Ça peut être un sentiment, mais je dois dire que si j'étais anglophone, probablement que je partagerais ce sentiment-là.
Il y a eu, à la suite de ces violences de la fin de l'année dernière, une prise de position très remarquée de la part de l'épiscopat. C'est une analyse assez approfondie, et eux aussi partage votre avis qu'il y a effectivement une crise du fait du déséquilibre dans la représentation des deux patrimoines, des deux cultures, puisque votre idée est de chercher comment en sortir sans tomber dans le calcul purement politicien, est-ce que c'est là une piste de sortie, que cette réflexion commune dont vous faites partie pour dire, écoutez, il y a des différences, ne fermons pas les yeux, essayons de les gérer au mieux pour éviter un Biafra nouveau, un Katanga, et que c'est un Sud-Soudan, par exemple.
Tout à fait.
Encore que ce ne soit pas du tout la même histoire.
Il faut dire que l'aggravation de cette crise tient pour beaucoup aux maladresses qu'il y a eu dans la gestion opérationnelle de cette crise. On a commencé par nier l'existence d'un problème anglophone au Cameroun. Si je remonte au mois de novembre 2016, l'un des ministres les plus importants aujourd'hui du gouvernement camerounais, qui est de surcroît anglophone, a considéré qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Or, il occupe un ministère et il est aussi à plusieurs titres, il dispose de beaucoup de prérogatives dans la gestion opérationnelle de cette crise. Or, on ne peut pas entreprendre de résoudre un problème dont on ne reconnaît pas
l'existence.
Donc, il y a d'abord le fait qu'il faut reconnaître qu'il y a, et ne pas nier le fait anglophone, parce qu'on est allé jusque-là, puisqu'on a voulu réduire le fait anglophone au parler anglais. Je suis à peu près certain que votre anglais est impeccable, pour autant vous n'êtes pas anglophone. Et ça a été le cas. On a passé des mois durant à essayer de nous convaincre que les anglophones auraient disparu au Cameroun au motif que le bilinguisme français-anglais avait beaucoup progressé. Donc il y a déjà cela. Et puis aussi, on a multiplié les traitements symptomatiques. On ne veut pas reconnaître dans les revendications qui ont été posées aussi bien par les avocats que par les enseignants, on ne veut pas reconnaître que dans le fond de leur pensée, il y a l'expression d'une exigence politique. Ils ont beau demander la traduction des tests, ils ont beau demander que il y ait davantage de magistrats, etc. Dans le fond de leur pensée, ce qu'ils réclament, c'est le retour au fédéralisme. C'est le refus de l'effacement institutionnel de leurs mœurs sociopolitiques. Et cela ne peut se concevoir que dans le cadre d'un État fédéral. Je crois qu'aujourd'hui, ils n'en sont plus là puisqu'ils revendiquent et que la plupart des partis de leur région sont fédéralistes. D'ailleurs, ça a un peu contaminé beaucoup d'intellectuels et de responsables du Cameroun francophone qui considèrent que beaucoup de problèmes de gouvernance que connaît le Cameroun francophone peuvent être résolus à travers cette... Alors, moi, je n'ai pas de religion sur les institutions parce que, à mon esprit, je n'en ai qu'une conception instrumentale. Je pense que ma conviction profonde, c'est que les pays d'Afrique noire sont engagés dans un processus de tâtonnement institutionnel et qui va se stabiliser lorsqu'on aura inventé les institutions qui conviennent à notre cosmogonie, à notre rapport au pouvoir, à notre rapport à l'autorité. Donc, je n'ai pas de fixation sur les institutions et je considère qu'il ne faut pas qu'on en ait et il ne faut pas qu'on s'interdise des expérimentations dans le domaine, en tous les cas pour résoudre des crises qui manifestement sont liées aux institutions. Donc, pour en sortir, je crois qu'il faut absolument une initiative politique pour qu'on essaye de débattre, notamment de la forme de l'État. Au Cameroun, je crois que le sujet de fond, c'est celui-là. Il faut qu'on parvienne à débattre de la forme de l'État que l'on souhaite, sans préjuger du résultat. Peut-être qu'à la fin, on va aboutir au fait que c'est le statu quo qui est préférable. Peut-être que ce sera le fédéralisme, peut-être que ce sera autre chose. Toujours est-il que pour dépasser les drames actuels, j'ai comme le sentiment qu'on ne peut pas faire l'économie d'une initiative politique pour essayer de débattre de nos institutions et pour refonder en quelque sorte démocratiquement notre pacte institutionnel. Il n'y a pas de raison, puisque le fait essentiel qui est l'unité du Cameroun semble être partagé par tous. Il y a des groupuscules minoritaires qui ont basculé dans le terrorisme, dans la violence, mais ce sont les séparatistes au Cameroun, sont extrêmement minoritaires.
Et puis, je dirais, l'argument de l'histoire, je veux dire, de l'histoire du Cameroun et de l'histoire de l'Afrique, qui a connu dans le passé des États qui ont duré très 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 longtemps,
tout à fait.
Dans la région où nous sommes, Nigeria, oui, Cameroun, Afrique centrale, et quand on regarde dans les détails, ces États ne fonctionnaient pas sur le modèle de l'État centralisé.
Non.
Ça a été des États, sortes de fédérations, d'unités diverses, qui peuvent
tout
être des États, qui peuvent être des provinces,
tout
qui
à
peuvent
fait.
Être des régions,
tout
et on a des États comme ça qui ont vécu dans toute l'Afrique plusieurs centaines d'années.
Bien
donc
sûr.
Pourquoi ne pas inventer sa propre configuration en s'appuyant sur son histoire
sur et notre infrastructure sociale
et non pas, comme disait Joseph Kizerbo, dormir sur la natte des autres.
Tout à fait, c'est bien cela et je ne comprends pas les drames actuels au motif que le Cameroun doit être... Bien sûr que le Cameroun est un et indivisible et il a été sous la fédération. Donc, les dirigeants anglophones considèrent que lorsqu'ils parlent de fédération, tout de suite après, on invoque, pour évacuer ce sujet, on invoque la sécession. Donc, il y a une confusion qui est savamment entretenue pour évacuer la question de la forme de l'État au motif que poser ce problème, c'est indirectement poser la sécession du Cameroun. Alors que ça n'est pas le cas du tout.
Voilà donc une des suggestions très importantes sur cette question que nous retrouverons, mon Dieu, si on laisse l'Afrique du Sud et encore, disons, de la Namibie, de l'Angola et du Zimbabwe jusque au moins à l'Afrique de l'Ouest. Merci à vous, Pierre Camé
Bouda,
d'être venu à Mémoire d'un continent avec ce livre dont je rappelle le titre, La crise anglophone au Cameroun, publié aux éditions L'Harmattan. Merci à vous pour Mémoire d'un continent, une émission réalisée par Olivier Raoult.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.